messieurs, pour des raisons indépendantes de notre volonté, la table ronde va commencer à l'heure. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table quatre nouvellistes de talent. Nous avons Sybille Aîné à ma droite, Raymond Hiss, Jean-Claude Dugnac et Fabrice Collin, qui sont en train de discuter, mais qui sont prêts à suivre la conversation. Alors, la table ronde s'intitule « Écrire des nouvelles de science-fiction, la passion de la forme courte ». Donc ici, nous avons quatre spécialistes de la forme courte. Et je vais peut-être commencer par la dame, la seule représentante féminine qui est ici, c'est Sylvie Lénet, qui est professeure en sciences de l'information à l'université Jean Moulin de Lyon. Elle a commencé à écrire en 1985 et a publié quelques nouvelles remarquées, dont Le chemin de la rencontre, qui lui a valu le prix Rosny-Aîné en 1986. Puis après, si je me souviens bien, elle a cessé d'écrire, portée par la carrière universitaire. Mais quand on aime écrire, c'est difficile de résister à l'appel du clavier, si je peux dire. Du clavier, ouais. Elle ressurgit au début des années 2000 avec Définissez priorité à la Mirotte, qui confirme que son talent est intact. En 2002, elle reçoit le prix Alain Doré-Mieux, puis en 2003, un deuxième prix Rosny-Aîné avec Un signe de Séti, qui est une nouvelle absolument admirable qu'il vous faut lire si vous ne l'avez pas lu. Et puis elle a même réussi pour Les yeux d'Elsa un triple exceptionnel, le prix Rosny-Aîné en 2006, le nouveau grand prix de la science-fiction française 2006 et le grand prix de l'imaginaire 2007.
Pardon. Et le prix du lundi.
Et le prix du lundi aussi.
C'est le grand prix de la science-fiction française.
C'est le même. Ouais, c'est le même. Alors, comme les autres nouvellistes ici, Sybille Aîné est une nouvelliste exceptionnelle dont les histoires émeuvent, touchent au plus profond de l'être. Il est, à mon avis, impossible de rester indifférent en lisant l'histoire de Sybille Aîné. En tout cas, moi, j'y parviens pas. Alors, ces nouvelles sont actuellement publiées dans des jolis petits recueils chez ActuSF. Et le talent de Sybille se lit déjà dans ses titres, hein, Le miroir aux éperluettes, Espace insécable, Marouflage. La science-fiction de Sybille Aîné est fine, sensible, pure, merveilleuse, toujours très humaniste. Ces héros se trouvent fréquemment à la croisée des chemins et choisir sa voie nécessite des sacrifices. Alors j'ai envie de vous lire un extrait du miroir aux éperluettes, si je peux. Voilà, voilà. Merci. Ça va aller. Wow. C'est tiré de questions de mode, c'est le début de la nouvelle. Malia ouvrit l'armoire et contempla perplexe l'amoncellement disparate. Elle regarda avec envie son caraco bleu acier, celui qui lui dessinait une poitrine rigide et carrée. Sa tenue fétiche. Elle la portait le jour où elle avait rencontré Alain. Ce jour-là, elle avait un pantalon noir très moulant et ses bras nus étaient couverts de bracelets. Impossible. Déjà quand elle sortait ainsi dans la rue, on la regardait avec amusement, avec une moquerie pas toujours teintée de gentillesse. À la grande fête du printemps chez Paul, ce serait pire, on la traiterait carrément de ringarde. C'était le moment où jamais de changer de look. Il y avait de la déception dans les yeux d'Alain la semaine dernière. Et il avait passé la soirée à faire les yeux, d'où une espèce de folle aux pommettes gonflées de silicone, une martienne avec un bonnet de bain en plastique, à la silhouette indiscernable sous des couches de dentelle superposées. Le dernier numéro de Nous les femmes était sur la table basse du salon. Elle retourna feuilleter l'article de Sophie. « Comment êtes-vous vraiment? Comment êtes-vous à l'intérieur ?» lut-elle avec perplexité. « Vous n'êtes pas comme les autres veulent vous voir. Vous n'êtes pas comme votre mère ni comme votre grand-mère. Vous êtes différente. Apprenez à l'exprimer. Vous n'êtes plus l'esclave de ce matériau brut qui vous a été fourni à la naissance. Grâce à la chirurgie, au maquillage et à l'astuce, vous pouvez en faire toute autre chose. C'est vous qui choisissez. » Classicisme ou simplicité ne sont que manque d'imagination ou de créativité. Et vous n'avez aucune excuse. Cachez-vous. Malia leva les yeux vers le miroir. Son fin visage aux traits réguliers noyé dans la chevelure tendre lui rendit son regard pensif. Une image douce qu'elle croyait semblable à elle-même. Que leur fallait-il donc? Elle voulait sur elle le regard d'Alain, fasciné et surpris, un peu angoissé par son nouveau mystère. Ce regard qu'il posait sur les autres, celle qu'il ne comprenait pas. Une bouffée de colère la submergea. Ce ne devait pas être si difficile. Elle empoigna vaillamment une paire de ciseaux et se mit à tailler au hasard, avec rage, dans les longues mèches. Chaque ruisseau doré qui tombait par terre ajoutait à sa fureur. Elle ne s'arrêta que quand ses mains tâtonnantes ne trouvèrent plus rien à la hauteur des épaules et leva les yeux vers le miroir. Voilà, elle n'était plus douce ainsi. Elle se trouva une toute petite tête ronde, têtue et disgracieuse, encadrée de balais irréguliers. La frange qui lui couvrait la moitié du front était particulièrement hideuse. « Personne ne pourra penser que je révèle mon véritable visage », pensa-t-elle avec une pointe d'ironie. « Il faut trouver mieux. » Elle se rasa le crâne et ne reconnut pas davantage le reflet pathétique, le front immense et les oreilles incongrues. Elle essaya un sourire, les dents. L'encre n'imprégnait pas l'émail et lui laissa un sale goût dans la bouche. Elle eut bientôt la langue et les lèvres noires, mais les dents restaient à peine grisées. L'ensemble était quand même assez saisissant. Elle glissa deux coussins sous les bretelles de son soutien-gorge, enfila une chose blanche, informe, et s'étrangla la taille avec une ceinture dorée. Puis elle contempla avec une amère satisfaction l'étrangère qui lui faisait face, l'une de ces femmes différentes, incompréhensibles et violentes qui l'avaient toujours un peu effrayée. Elle était l'une d'elles maintenant. Alors, j'ai envie de demander à Sylvie, est-ce qu'il y a une façon féminine d'écrire des nouvelles de science-fiction ?
Tu me prends au dépourvu parce que habituellement les questions qu'on pose à une femme qui écrit de la science-fiction et des nouvelles, c'est dans l'ordre pourquoi est-ce que vous écrivez de la science-fiction alors que vous êtes une femme ? Ensuite c'est pourquoi vous écrivez de la science-fiction alors que vous pourriez écrire des vraies choses normales qui sont de la vraie littérature ? Et la troisième c'est oui c'est bien vous écrivez des nouvelles mais quand est-ce que vous allez écrire un roman ? Donc je peux prendre ça sous l'angle que tu veux. Mais tu disais, qu'est-ce que ça change quand on est une femme ? Déjà, ça change quelque chose qui est tout à fait à la portée des hommes, mais qui pour nous devient une nécessité, c'est de faire des femmes des personnages importants dans les histoires. Pour les hommes, ça arrive quelquefois, c'est sans doute une aventure intéressante. Moi, ça m'est arrivé de me mettre dans la peau d'un homme pour écrire, c'est tout à fait intéressant de le faire. Mais c'est vraiment une nécessité quand on est une femme, d'avoir des femmes qui sont des personnages. Et rien que ça, il y a eu quand même toute une période de l'histoire de la science-fiction qui manquait cruellement de personnages féminins, un petit peu riches et multidimensionnels. On a eu l'occasion d'en parler à Genève il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que les rôles féminins ont souvent été réduits à des stéréotypes de compagne du guerrier, de perverses créatures tentatrices. Et voilà, bon, donc, le plaisir de faire évoluer des personnages féminins, complexes, ambigus, dans des rôles, dans une palette de rôles extrêmement large, qui sont tous ceux de la science-fiction, plus quelques autres qu'on peut inventer pour l'occasion.
Alors, est-ce que tu le fais souvent dans tes récits, dans ces différentes nouvelles qui paraissent. Donc, chez ActuSF, c'est ça, oui. Oui. Est-ce que tu le fais souvent dans tes nouvelles ?
Décrire des personnages féminins ?
Oui,
oui. Oui, je pense, mais pas que. Mais moi, mes histoires, c'est toujours des rencontres. Alors, c'est vrai que c'est un peu facile de faire des rencontres entre hommes et femmes. Je dis c'est un peu facile parce que, en gros, on les met en présence et il est tout de suite évident qu'il va se passer des choses. Bon, je dis ça, je suis hétérosexuelle, hein, mais. Il est plus facile, dans une histoire, de mettre côte à côte deux personnages de même sexe et puis que finalement, il ne se passe pas grand-chose ou qu'ils soient juste alliés. Mais là, il y a tout de suite une perspective d'interaction qui peut déboucher sur à peu près n'importe quoi. Mais on peut aussi le faire en mettant face à face un être humain et un extraterrestre, un être humain et un animal, un être. Mais c'est alors, des rencontres, c'est bien, avec des choses entre des personnages différents.
Un être humain, un animal, tu l'as fait dans une nouvelle. Rappelle-moi le titre.
Les yeux d'Elsa.
Voilà, les yeux d'Elsa. C'est splendide.
C'est une rencontre entre un homme et un dauphin génétiquement amélioré, donc doté d'intelligence, de sensibilité, créature féminine d'ailleurs, ce qui a son importance. Et il se passe des choses diverses entre les deux.
Lisez les yeux d'Elsa. Jean-Claude Dignac, à ma gauche, je vous cite ce qui est écrit sur la fiche des Imaginales, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ex-chanteur guitariste d'un groupe de rock aux intentions affirmées, les World Masters.
Oui, mais commencez petit.
Conteur itinérant, parolier de variété, tenancier d'un sex shop toulousain pendant une semaine. En parenthèse, le délai minimum d'après lui pour que cela figure dans une notice biographique.
Un mois,
carrément. Jean-Claude Dugnac, qui est né à Toulouse, possède une solide expérience de la vie. Cependant, ses activités diverses ne l'ont pas conduit à la marginalité, puisqu'il affiche également un doctorat en mathématiques appliquées à l'utilisation des superordinateurs, et qu'il est ingénieur à EADS Airbus depuis 1982. Alors, sur le plan de l'écriture, Jean-Claude Dugnac est véritablement réputé pour ses nouvelles, dont il est le grand spécialiste. Il en compte plus de 80 à son actif dans les domaines qui nous intéressent, science-fiction, fantastique, fantasy, mais aussi de littérature générale. Alors, l'Atalante édite depuis quelques années une édition intégrale de ses nouvelles, dans des charmants petits livres dont 7 numéros sont déjà parus. Et le dernier, c'est celui-là qui est d'un plomb, hein, c'est les Harmoniques Célestes. Très chouette, j'aime bien. C'est aussi un grand collectionneur de prix, alors je ne vais pas tous les citer, mais enfin, le Rosny-Henné, le Grand Prix de la science-fiction française, le Prix Ozone, le Grand Prix de l'imaginaire en 1998. Mais il est peut-être le seul auteur français à pouvoir se vanter d'avoir reçu le prix des lecteurs de la revue britannique Interzone pour la traduction de Déchiffrer la trame. Une des plus fascinantes nouvelles de science-fiction du corpus littéraire. À relever que c'est aussi un des rares auteurs à franchir l'Atlantique dans l'autre sens, puisqu'il est régulièrement publié dans des anthologies américaines. Alors, Jean-Claude Dugnac est aussi connu comme romancier. Hein, bien entendu, plusieurs de ses romans sont parus au fleuve noir, notamment Étoile morte et Étoile mourante, qu'il a coécrit avec Heyerdahl, qui est un livre univers extrêmement bien, qui a connu un grand succès, qui a aussi ramassé des prix. Et puis, Jean-Claude, c'est aussi éditeur, il a fait partie de l'équipe Galaxy en sélectionnant les nouvelles, il participe beaucoup à la lecture et à donner des conseils à d'autres auteurs, enfin, c'est aussi un homme orchestre de la science-fiction. Et puis, il a dirigé la collection SF des éditions Bragelonne, c'est ça. Ouais. Et puis, depuis quelque temps, il a arrêté ça pour se reconsacrer à l'écriture de nouvelles, ce qui peut que nous enchanter. Je pourrais peut-être lire aussi un extrait. Ouais, merci.
Ouais, c'est vous. Ah oui, c'est rigolo. Merci.
Un extrait du jeu des dédicaces. Tiré de la station de Laniel, qui est un autre récit. Au nom de Georges, dit le colosse en tendant le livre. Comar Gray, il ajoute, s'il vous plaît. Sa grosse main hérissée de poils roux envahit mon champ de vision. Je lève la tête. Une longue file de lecteurs s'étire jusqu'à l'entrée du stand. La banderole 5e festival de Montmorillon, balancée par la brise, menace de les envelopper dans un linceul littéraire. Au premier rang, à demi-courbé pour contenir de ses larges épaules la pression de la foule, se tient l'équivalent humain d'une armoire normande, porte grande ouverte. « Non, » dis-je en plissant les yeux pour l'étudier, « vous êtes mal, Georges, je le sens. Il vous faudrait quelque chose de plus délicat, de plus raffiné. Patrice, peut-être ? Ou Armand ? Très fin de siècle, Armand, ça vous irait bien. » Il en reste tellement saisi qu'il oublie de protester. Mon fidèle stylo plume à la main, j'ouvre le livre à la première page. C'est que je m'appelle Georges, dit-il en désespoir de cause. Vous n'allez quand même pas m'apprendre mon métier. Ma voix s'adoucit. Faites-moi confiance. J'ai une certaine expérience des noms des personnages. Attendez, c'est quoi ces conneries? Je trace en hâte quelques mois avant de lui tendre l'ouvrage. Il le prend d'un geste gracieux et lit la dédicace en hochant la tête d'étonnement. Puis il tire sur ses manchettes de dentelle, me salue d'un bref coup de haute forme et se faufile avec élégance à travers la foule. « Au revoir, Armand, » murmurai-je en me tournant vers la personne suivante, une grand-mère au vinaigre qui tient fermement une adolescente par l'épaule. « C'est pour ma petite-fille, » lâche-t-elle sèchement en resserrant un châle noir sur ses épaules. « Moi, je ne lis pas ce genre de bêtises. Pourtant, vous adoreriez ça. » La vieille dame très digne haut le corps qui la fait ressembler encore plus à un oignon confit. « Je ne vous permets pas. Votre nom ?»« Marguerite, » ça lui a échappé. « Et ma petite-fille s'appelle... » Commençons par vous. Je fais tournoyer le stylo entre mes doigts. Avec un prénom comme ça, vous auriez dû être la reine des fleurs des champs. un personnage romantique et sensuel, capable d'éparpiller ses dessous au vent comme des pétales. Je me mets à griffonner tout en parlant. J'écris sérieux, car il faut faire tenir toute une nouvelle vie dans une seule page blanche. Au fur et à mesure, les rides du visage de Marguerite se redessinent avec douceur. Lorsque je relève la tête, elle a rejeté son châle. Sur ses épaules nues, parsemées de taches de rousseur, je lis des traces de baisers. « Voilà, lui dis-je en lui tendant le livre fermé. Ouvrez-le chaque fois que vous aurez envie d'entrer à l'église au lieu de sortir danser. » Elle me rend mon clin d'œil et s'éloigne en papillonnant. Je la suis un instant des yeux avant de m'intéresser au lecteur suivant. La journée promet d'être longue. Oh, c'est très amusant cette nouvelle. Moi je trouve que c'est marrant parce que Jean-Claude parle d'une expérience comme nous vivons actuellement, c'est-à-dire des séances de dédicaces, et réussit à transformer ça d'une manière. Enfin, est-ce que tu as un nouveau mot passant, Jean-Claude ?
Non, mais cette histoire est particulière parce qu'elle s'est réellement produite et j'ai un témoin juste en face de moi. J'étais assis entre Ayerdal et Elisabeth Bonnarburg à une séance de dédicace à Nancy. Et il y a effectivement un gros colosse qui est arrivé qui a dit au nom de Georges, et qui n'a pas dit ni bonjour, ni bonsoir, ni merde. Et j'ai donné un coup de coude à mon ami Ayerdal en disant tu le vois en Georges ? Et il m'a regardé, Ayerdal, on écrit ensemble, donc ça va, il l'a refait très fin. Il m'a dit tu le sens comment toi ? J'ai dit moi je sais pas, je le sens. Il m'a dit, mais je m'appelle Georges. Ben, nous, les professionnels, on va quand même vous refaire. Et on lui a véritablement refait sa vie. Et complètement à la fin, il est reparti en tenant son bouquin, le pauvre Georges, tout serré. Et le type après nous a dit, comment dire, s'il vous plaît. J'ai dit, ben voilà. Et je me suis rendu compte qu'on avait réécrit la vie de quelqu'un. Donc, ben, j'ai raconté l'histoire. Et tout. Mais c'était vraiment comme ça que ça s'est passé. Et je me rappelle qu'avec Elisabeth, tu me regardais, qui du diac ouais. C'est tout. Les histoires ne nous appartiennent pas, on ne les crée pas, elles nous sont données. Et la chance que nous avons, c'est de pouvoir les rendre. On les trouve comme un enfant sur le pas de la porte et on les rend habillés, quelquefois grandis, quelquefois avec de belles épaules, ayant fait leurs humanités, dotés de diplômes, en disant voilà, pars dans la vraie vie. Mais ce ne sont jamais des choses que nous nous arrachons parce qu'on n'est pas assez gros. On prend le bébé qu'on nous donne sur la porte et c'est avec ça qu'on fait quelque chose.
Merci. À droite de Sylvie, l'aîné, nous avons Raymond Hiss, qui, s'est mis à écrire pour se distraire de ses activités professionnelles, d'après ce que j'ai lu. À partir de 1985, ça fait donc déjà passablement de temps, et ses textes commencent à être publiés régulièrement. Il écrit des nouvelles de science-fiction et de fantastique, qu'il publie au Québec, en Belgique et même en Roumanie, avant de le faire en France, dans des anthologies de Daniel Conrad, d'Alain de Rémieux ou dans des revues comme Fiction et Galaxie, dont il fut un des fondateurs, c'est ça. Et puis membre du comité de rédaction. Alors, il a publié des textes courts indifféremment dans des fanzines ou des revues. Récemment, en 2009, sa découverte de la civilisation chinoise l'a amené à écrire un roman d'aventure qui s'appelle L'île aux immortels. Alors, je vais peut-être aussi lire un extrait d'un récit de Raymond Hiss. Comment ça s'appelle ? Tiré de Morne Plaine, qui est une
uchronie.
Une uchronie, d'accord. Croyez-vous, Jérôme, qu'il y ait encore une place en France de nos jours pour un écrivain ? Lui avait-il demandé la semaine passée. S'il ne s'agit que de place, les plus belles sont à prendre, celles de Lamartine et de Hugo, pour ne citer que. Les plus belles, mais aussi les plus dangereuses, car ces deux-là avaient dû choisir l'exil, l'un en Louisiane, l'autre en Angleterre. Quant aux autres, les romanciers ne manquaient pas en France et leurs œuvres s'alignaient, toutes semblables, sur les rayons des libraires comme des grenadiers à la parade. Et leur titre était éloquent. Le tambour d'Austerlitz, la cantinière de Belle Alliance, ceux de Wagram, Mourir pour l'empereur, aux Indes avec le grand Napoléon, etc., etc. Jérôme aurait pu lui en citer une cinquantaine du même tonneau. Arrêtez, arrêtez, lui dit le consul, vous me donnez la nausée, quel désert. Henri Bell reprit leur conversation de l'autre jour. Mais comment sommes-nous arrivés là ? Par décret. Comment par décret ? Les écrivains auront pour devoir de peindre des héros positifs. Le héros positif est le conquérant, le soldat laboureur qui fait reculer le désert. C'est aussi Le géomètre est l'ingénieur qui creuse les canaux et réunit les mers. Le héros positif, c'est encore assez, assez. Et c'est signé Napoléon Ier, empereur des Français, Alexandrie, le 21 mars 1818. Au bout d'un long moment de silence, Henri Bell se tourna vers son compagnon et lui dit « Je vais vous faire une confidence, Jérôme. Voyez-vous, je vais avoir bientôt 60 ans. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent ne vaut pas grand-chose. Et avant de disparaître, j'aimerais tant écrire un beau livre, hein, un seul. » Puis, en chuchotant comme s'il craignait qu'on l'entende, « Mais les héros positifs m'ennuient prodigieusement. Parlez-moi encore de Paris. Ne reste-t-il plus aucun écrivain digne de ce nom ?»« Oui, il y a bien le vieux Chateaubriand. On raconte qu'il essaye d'écrire ses mémoires, mais que chaque fois qu'il trempe la plume dans l'encrier, son bras retombe, sans doute fatigué d'avoir, durant toutes ces années, balancé l'encensoir sur le passage de Napoléon. » Eh oui. À propos, Jérôme, connaissez-vous cette anecdote sur Chateaubriand ? Vous savez sans doute qu'au moment du retour de l'empereur de l'île d'Elbe, il s'enfuit de Paris et se trouvait à Gand avec le comte de Provence. L'éphémère Louis XVIII ? Exactement. Lequel le pressa de s'embarquer pour l'Angleterre avec les débris des troupes de Wellington battues à Belle Alliance. Et savez-vous quelle fut sa réponse ? Non. Majesté, vous connaissez l'attachement que je porte à votre personne et à la monarchie, mais j'ai laissé ma femme seule à Paris, sa santé est fragile. Ah ! Le vieux renard avait déjà retourné sa veste et s'apprêtait à endosser la livrée de grand chambellan de la cour impériale. Mais vous parliez de Belle Alliance. Connaissez-vous cette légende qui court sur la bataille qui assura la victoire définitive de Napoléon sur les Anglais ? On dit qu'elle fut gagnée grâce à un jeune homme, un Italien, qui traversa les lignes prussiennes pour combattre avec lui. Il parvint à joindre l'empereur et l'informa de la concentration des troupes de Blücher qu'on croyait dispersées par Grouchy. Ainsi, Napoléon, au dernier moment, changea ses plans de bataille et parvint à empêcher la liaison des Prussiens et des Anglais. Vivement intéressé, Henri Bell demanda si l'histoire avait conservé le nom du jeune homme. Non, c'est sans doute pourquoi l'on conteste souvent l'authenticité de cette anecdote. En tout cas, elle ne manque pas de sel et la quatrième dynastie a été bien ingrate envers les Italiens. Voilà, Raymond, cette nouvelle, donc, c'est une uchronie. Et pouvez-vous nous en dire plus en fait sur la genèse de la nouvelle ?
Oui. Alors tout d'abord une petite parenthèse, les soldats napoléoniens que vous voyez à l'extérieur n'ont pas été mis en place spécialement en mon honneur, sachant que c'était modeste, c'est une pure coïncidence. Et la genèse, j'avais envie de... Bon, c'est le texte dont vous avez bien extrait, une uchronie, et sur un thème qui a été... utilisé pas mal de fois, qui est celui de la défaite ou de la victoire de Napoléon à Waterloo, ce que serait le monde, ce que serait devenu l'Europe, si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo. Mais j'ai voulu ajouter une dimension supplémentaire, c'est-à-dire que les personnages, l'histoire interpénètre avec la littérature, puisque le consul en question, dont il est question dans cette affaire, c'est Henri Bell, et le jeune homme qui a été envoyé en exil à Civitavecchia, pour avoir été impertinent avec le régime de Napoléon II, va lui redonner le goût de l'écriture et il va se mettre à écrire un roman. Et il va écrire un roman dont un des épisodes se déroule pendant la bataille de Waterloo. Mais comment va-t-il décrire la bataille de Waterloo dans un monde uchronique ? Comment son jeune Italien, qui arrive en plein milieu de la bataille, va pouvoir agir dans ce monde uchronique ? Pour le savoir, il faut lire. Il faut voir lire Coup de Lune. Et voilà donc comment fonctionne cette uchronie. Une autre parenthèse tout à l'heure, en écoutant Sylvie, je me suis rendu compte que dans d'autres nouvelles, au moins dans deux d'entre elles, j'avais utilisé des faits de personnages de femmes perverses. Je m'en excuse auprès d'elle, mais c'est vraiment une coïncidence également.
Il y en a des très bien.
Oui, oui, oui.
Merci. Tout à gauche de la table, nous trouvons Fabrice Collin, qui a... longtemps travaillé à mi-temps comme journaliste dans un magazine de jeux vidéo, tout en passant l'essentiel de son temps à écrire des romans pour adultes ou pour enfants et des fictions radiophoniques pour France Culture. Alors Fabrice Collin est un phénomène, parce qu'on a l'impression qu'il vieillit pas, parce qu'on le connaît depuis longtemps, parce qu'il s'est mis très rapidement à écrire et sa production est véritablement considérable. Sauf erreur, une vingtaine de nouvelles, une trentaine de romans à ce jour. c'est ça.
Peut-être,
oui. Ouais, peut-être, il est employé. C'est aussi un collectionneur de prix littéraires. Et on relèvera particulièrement son doublé de 2004, où il a obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en catégorie adulte et jeunesse, avant de recevoir en 2005 le prix Imaginal. Il est aussi depuis quelques années scénariste de bande dessinée, notamment avec Serge Lehmann et Jess, avec lesquels il participe à l'aventure de la Brigade Chimérique, et puis il est aussi traducteur. Parmi d'autres, on relèvera aussi son talent pour l'humour. Moi, j'ai personnellement beaucoup apprécié dans Le mensonge du siècle, un livre pour la jeunesse, cet humour. Il est tout à fait à l'aise dans le secteur jeunesse. Bref, c'est aussi un homme orchestre des littératures de l'imaginaire. Et puis, alors, j'ai découvert récemment qu'il a publié un recueil d'abord au mouton électrique, sauf erreur, qui est paru d'abord, et puis maintenant il est en livre de poche chez Folio SF. Un recueil qui s'appelle Comme des fantômes. Et j'aimerais bien qu'il nous en parle un peu plus parce que ce recueil est constitué d'une manière un peu différente. C'est pas simplement des nouvelles, c'est vraiment. Il y a une idée derrière, une construction.
Enfin, une idée, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Quand André-François Ruot m'a proposé de faire un recueil de nouvelles, bon, moi, j'étais un peu perplexe. Alors, ma présence ici me rend perplexe, étant donné que je ne me considère pas comme un novelliste de premier plan, loin de là. Et en fait, j'ai surtout écrit des nouvelles parce qu'on me demandait d'en écrire. C'est une habitude assez pénible que peuvent avoir les anthologistes. Ils demandent des nouvelles à des gens. Et moi, j'ai une autre habitude assez pénible, c'est que j'arrive pas à dire non. Donc, j'ai dit oui, super. Et ensuite, je les fais pas. Et donc, on me rappelle en disant là, quand même, la deadline, c'est demain. Et généralement, j'ai été très souvent le dernier. Et je rends hommage à Monsieur Comballot, qui n'est pas là cette année, mais qui est anthologiste très pugnace, parce que c'est quelqu'un qui s'énerve jamais. Et pourtant, enfin, j'ai essayé. Hein, Dieu sait que. Donc j'étais souvent le dernier, et donc à un moment, il n'en avait pas assez, il s'est dit, maintenant on va faire un recueil de nouvelles, ça va être super. Donc des nouvelles qui pour la plupart avaient déjà été publiées, et en fait, comme le principe m'ennuyait, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui fonctionne pas mal, c'est un peu la lutte contre l'ennui, ma vie. Donc quand on me dit on va faire un recueil de nouvelles, je dis, mais oh, c'est un peu chiant en fait, parce que... Ça a déjà été. Enfin voilà, les nouvelles elles sont là, donc bah quoi, on va les mettre à la suite les unes des autres, puis ça fera un recueil, c'est super. Bon, je lui dis, il faut que je trouve autre chose. Donc je lui dis, je vais faire une sorte d'appareil biographique autour pour expliquer dans quelles circonstances ont été écrites ces nouvelles. Et comme ça aussi, c'était finalement assez ennuyeux, je me suis dit, bon, on va changer des trucs et on va dire que ça a été écrit par. Quelqu'un qui s'appelle Fabrice Collin, mais qui est mort en 2005. Je crois que le recueil est paru en 2006. Donc j'ai dit, écoute, t'inquiète pas, André, on va faire un truc rigolo. Et donc, il y a une biographie de l'auteur, sauf que c'est un auteur qui n'a jamais écrit que des nouvelles. C'est assez marrant, il a jamais finalement réussi à écrire le moindre roman. Et au moment où il commençait vraiment à essayer, il est mort. De façon assez pathétique, dans l'incendie de son appartement, parce qu'il était défoncé et qu'il a fumé et qu'il s'est endormi, enfin des choses qui arrivent. Quoi. D'où cette couverture très particulière dont je ne porte pas l'entière responsabilité, avec une photo de l'auteur, c'est quand même très très mégalo, mais qui va mourir, donc ça contrebalance un petit peu le truc. Mais sinon, les nouvelles, c'est des nouvelles voilà, qui ont été publiées. Je suis content que le recueil existe, mais l'espèce d'appareil qui a été construit autour, moi, m'amusait beaucoup plus. Et nous a valu il me semble que c'est, je crois, Catherine Dufour qui a lu ce recueil. Donc elle était contente, et sur ActuSF, elle titre « Fabrice Collin est mort ». Ce qui nous a valu un petit moment de rigolade. Enfin, y a des gens qui ont dû être peut-être contents, d'ailleurs. Et donc, il y a eu 2-3 réactions. Et on est très déçus, hein, je peux vous dire, que dans ce cas-là, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah bon ?» Ok, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Voir des gens qui réagissent pas, on se dit « Mais bon... » Alors, il y en a 2-3, bon, ils savent que c'est pas vrai, mais quand même, j'étais un petit peu... Donc, t'as rien dit, toi.
Moi, j'ai dit « Fabrice qui ?» et personne m'a répondu.
Ouais. Le truc est retombé comme un soufflé, donc ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté, ce qui prouve quand même c'est un... On était hier sur le débat du ghetto, bah ouais, c'est quand même tout petit quoi, la science-fiction, parce que quand je meurs, les gens s'en foutent. Et sinon, qu'est-ce que je peux ajouter à ça?
Non, mais... fais un truc avec une femme de ménage, on va parler.
Merci.
Moi, je peux quand même ajouter un truc, c'est parce que j'ai fait partie des éditeurs de Colin et je t'ai publié en nouvelle en plus. Et effectivement, je confirme, il y a eu un retard. Mais, et pour avoir lu aussi des choses dans l'Oxymore, etc., avoir vu comment tu bossais et tout, il y a quand même une magie. Alors là, je parle en tant que novelliste. Tu dis que tu n'es pas un novelliste et j'ai envie de te mettre de claques parce que si, tu en es un. Tu es un novelliste qui n'en a pas écrit beaucoup, mais tu devrais. Parce que franchement, s'il y a un média pour lequel tu es doué en plus de tout ce que tu sais faire, si cela, il faudrait que tu dormes un peu moins, il faudrait que tu arrêtes de boire, enfin, tout ça, mais ça serait bien que de temps en temps tu en prennes. Et j'encourage véritablement les anthologistes à aller te chercher un truc parce que tu ouvres vraiment le coup de ce point-là. Bah, il n'y a qu'à lire cette pacha. Je sens plus que lui, il est mort, alors on peut dire ce qu'on veut. Quoi. Mais c'est bien parce que maintenant, le côté transfiguré du truc est pas mal, quoi, avec un peu de chance. Là. Renaître tel le phénix et faire enfin de mon texte.
on a répété un peu.
Alors, c'est intéressant parce que Fabrice Collin a répondu implicitement à une question que je voulais poser. C'est pas plutôt explicitement. C'est-à-dire, est-ce que écrire une nouvelle, c'est un exercice pour le roman. Visiblement, c'est une autre démarche. Alors, j'ai envie de poser une question à tout le monde. En fait, qu'est-ce que permet d'atteindre la forme courte que ne permet pas d'atteindre le roman? Pourquoi, en fait, écrivez-vous des nouvelles? Qu'est-ce que ça autorise? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à un roman? Qui c'est qui veut répondre?
Et Jean-Claude, il veut répondre, je crois.
Bon, ben c'est très simple. Si je vous donne un Scooby-Doo qui fait 4 mètres de long, vous disant, en fait, le truc qui est marrant, c'est qu'il faut le défaire, ça va vous faire chier. Si je vous file juste un petit Scooby-Doo en disant, le petit cadeau est à l'intérieur, vous allez le défaire. Voilà. Une nouvelle, c'est un petit peu comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire un magnifique paquet cadeau où il n'y a même pas de cadeau à l'intérieur du paquet, mais on peut faire un cadeau tout fin, et ça, c'est une nouvelle. Il y a aussi un énorme avantage, c'est que quand on a une nouvelle, je dirais, on peut faire absolument la même chose qu'un roman, mais ça va plus vite. C'est-à-dire qu'on peut mettre exactement dans une nouvelle de 20 pages ce qu'on met dans un roman de 200, 300 ou 400, et on est clair, il n'y a pas besoin d'en faire plus, un roman c'est souvent redondant. Par contre, dans une nouvelle, on peut mettre que ça, puis au moins on a vite fini, et puis on peut l'avoir un coup.
Je crois qu'on a envie d'écrire des nouvelles quand on aime bien lire des nouvelles, déjà. Donc, moi, en ce qui me concerne, c'est clair que j'adore lire des nouvelles, donc c'est tout naturel de choisir cette forme-là. Et puis, en tant que lectrice, à part le côté économie pour l'auteur qui est évident, en tant que lectrice, le plaisir que j'ai moi à lire des nouvelles, c'est qu'il y a plein de choses à imaginer autour. Et j'aime bien imaginer autour d'une histoire. Et finalement, ça m'embête un peu quand on me raconte tout par le menu, qu'il y a tous les détails, qu'on voit exactement tout ce qu'il y a dans le paysage, tous les personnages secondaires, qu'on y passe des heures. J'aime pas qu'on m'explique tout, moi j'aime bien chercher toute seule. Et avec les nouvelles, on est obligé d'inventer l'arrière-plan, les gens qui passaient, ce qu'ils faisaient quand ils étaient petits. On ne nous le raconte pas, ce qu'ils vont faire après. Et ça fait partie de mon plaisir de lecteur. Donc j'essaie d'offrir ça aux lecteurs de mes nouvelles et je ne leur dis pas grand-chose finalement. Mais c'est pour qu'ils jouent avec l'histoire.
Merci.
Oui, c'est vrai qu'on dit parfois que les gens qui écrivent des nouvelles, c'est parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas assez de souffle pour écrire un roman. Je crois que c'est faux. L'art de la nouvelle est un art difficile. C'est un travail de précision. Le moindre mot mal placé vous torpille complètement le texte. Alors qu'en un roman, bon, s'il y a une cinquantaine de pages qui sont un peu faiblardes, ça ne se voit pas tellement. Et puis effectivement, ça permet aussi de laisser au lecteur la liberté de l'imagination et la liberté de travailler lui-même, d'imaginer d'autres choses, etc. Ce qu'a dit Sylvie, on ne lui présente pas le plat tout préparé. De ce point-là, c'est très intense. Alors, il y a le mythe de la chute aussi dans la nouvelle. Bon, je ne suis pas tellement, adepte du mythe de la chute. C'est important, mais ce n'est pas forcément indispensable. Il ne faut pas que la nouvelle ne se limite pas à une blague de comptoir dont on attend la chute. Il peut y avoir d'autres choses. Il y a des textes courts qui n'ont pas nécessairement de chute fracassante. On découvre à la fin la réalité de l'histoire.
Merci.
je peux le garder une seconde. Oui, juste, une nouvelle, c'est quand même très différent. Je pense à la différence entre les films et les séries télévisées. Ce qui est très énervant, à mon avis, dans les séries télévisées, c'est que le principe général, c'est quand même qu'à la fin de l'épisode, on doit se retrouver exactement dans la situation ou l'état où on était pour le prochain épisode. C'est très rare qu'il y ait une progression et qu'il y ait vraiment quelque chose qui est changé entre le début et la fin, de fondamental. Alors qu'avec une nouvelle, même si ce n'est pas une chute au sens où il se passe vraiment quelque chose qu'on n'imaginait pas, on peut vraiment se permettre, en quelques pages, d'avoir bouleversé le monde et la situation des gens et de les remettre dans un état complètement différent de celui où ils étaient avant que ça commence.
Merci.
Il m'est un peu difficile de répondre à cette question comme à n'importe quelle autre question, d'ailleurs, parce que Jean-Claude parle en même temps et que les autres répondent, et j'ai beaucoup de mal à me concentrer. C'est intéressant, en plus. Alors moi, j'oppose pas... Enfin, je pense qu'on peut atteindre des choses qu'on a dans le roman, qu'on pourra pas... Enfin, les deux systèmes se valent. Par contre, oui, la nouvelle, c'est une forme... étrange, finalement, peut-être beaucoup plus étrange que le roman, où on raconte vraiment une histoire qui va satisfaire à notre goût des trucs bien structurés, avec un début, un milieu, une fin. Quelque chose peut se terminer abruptement. C'est un peu comme les haïkus, ça peut marcher vraiment sur une notion de grâce. Alors là, je continue le petit numéro de flatterie réciproque qu'on a mis au point avec... avec Jean-Claude, que je ne connais pas du tout.
À toi.
Ouais.
À toi.
Mais par exemple, voilà, une nouvelle comme Déchiffrer la trame, voilà, c'est quelque chose de très fragile. Quoi, hein. Je pense qu'il y a un équilibre entre l'anodin et le sublime, qui est parfois... il faut que tu te tasses maintenant. qui peut être très très difficile à trouver. Et c'est vraiment un art. C'est... un roman peut être quelque chose de puissant et va... Moi, les romans que j'ai plus aimés sont des constructions massives, puissantes, baroques. J'aime beaucoup dire une nouvelle peut être quelque chose de très, très... un petit truc très fragile, très diffus, très subtil. J'aime beaucoup, par exemple, les tu dis que je suis gay, en fait, c'est ça?
Non, t'as vraiment le roman, si tu veux, et t'as la nouvelle.
Ouais.
Je suis une série de nouvelles.
Bah oui, voilà. Ouais. Bon, bref. Chacun en tirera les... je suis, voilà, moi je maintiens que je suis pas, quand je dis je suis pas un écrivain de, je suis pas un novelliste, c'est dans le sens où oui, moi je conçois les nouvelles comme des espèces de romans miniatures, et effectivement c'est très sympa parce que on arrive à finir un truc en 5 jours, ce qui peut donner une satisfaction, et les romans vous en finissez un par an ou tous les 6 mois dans certains cas. Et donc c'est long et pénible, et le fait de terminer quelque chose de toute façon est déjà une satisfaction, surtout quand on est sur des ressorts aussi subtils, et c'est pour ça que c'est pas très facile à expliquer. Mais par exemple, il y a des gens qui s'en sortent très bien dans les deux formes, je pense à Haruki Murakami, peut-être tu me démentiras pas. Je trouve que les nouvelles sont assez fabuleuses, quoi. Et c'est, il y a un art de la non-chute, quoi, en fait. C'est-à-dire que on vous laisse dans un état d'attente et de suspension qui vous revient de combler, de nourrir, etc. Et c'est laisser quelqu'un aux portes d'un monde comme ça, sans qu'il soit déçu en lui disant « maintenant, débrouille-toi », sans non plus lui donner toutes les clés, c'est quelque chose qui est vraiment assez difficile.
Merci. Il y a une chose qui me frappe aussi, c'est par rapport à la littérature générale, la littérature blanche, la nouvelle est beaucoup moins réputée, a beaucoup moins de succès que dans les littératures de l'imaginaire. Alors, est-ce que...
C'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. Ah ben, vas-y.
Non, c'est pas vrai. Il y a eu des recueils de nouvelles qui ont bien marché ces derniers temps. Bagavalda a commencé comme ça, il y en a eu d'autres aussi. Et Fred Vargas en a eu fait certaines. Bon, ça marche. C'est juste qu'il y a aussi des revues littéraires de nouvelles de littérature blanche. On ne les connaît pas nécessairement dans notre genre, de la même façon qu'eux ne nous connaissent pas, mais elles existent. Et elles marchent assez bien. Il y a aussi tout un tas de domaines dans lesquels il y a des nouvelles de littérature générale qui sont publiées, dans des magazines comme EL, dans des magazines comme les magazines d'aviation qu'on lit dans les avions, les trucs qu'on trouve dans les hôtels. Enfin, il y a une grosse production de nouvelles, c'est juste que ce sont des mondes qui s'ignorent. Mais il ne faut pas croire qu'il y en a un qui lit plus que l'autre, hein, c'est pas vrai. Ils sont là exactement comme nous, pour les mêmes raisons.
Merci. Intéressant. Mais alors, si on regarde les chiffres des ventes, par exemple, bon, il n'y a pas d'éditeurs parmi nous, mais est-ce que ça se vend bien, les recueils de nouvelles? Vous avez des idées, enfin, en tant qu'auteur, vous avez peut-être des retours sur les chiffres. Oui, non?
Dernièrement, en science-fiction, de ce que je vois du bout de ma lorgnette, c'est assez chaud. Enfin, pour des grosses structures, en fait. C'est-à-dire, notamment, il y a quelques années, Fleuve Noir s'est mis à faire des anthologies de fantasy et de science-fiction. Et à ma connaissance, ils ont arrêté pour des questions parce que ça ne se vendait pas assez.
Ça dépend. Par exemple, le premier Escale sur l'horizon, c'est plutôt très bien vendu et ça a été une très grande surprise. Le deuxième, c'est correctement vendu aussi, il n'y a pas eu de problème. Qu'on a dedans, donc à la limite,
ça a commencé. Hein.
Ça a commencé, mais bon, au bout d'un certain temps, effectivement, il y a peut-être une attrition, mais une attrition qui ne s'explique pas parce que ça reste des bouquins tout à fait convenables. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, un recueil de Noël, moi les miens, c'est très clair, ils sont de l'ordre de 1500 exemplaires quand ils ont atteint à peu près leur seuil de vente. Quoi. Chaque fois que j'en sors un nouveau, il y en a quelques-uns des précédents qui partent, bon, il y a des choses qui se font, mais c'est vrai que c'est de cet endroit-là. Quoi.
Bah, disons que en ce qui concerne les ventes, je vous en dirai plus sur les miennes demain soir, à la fin des imaginales. Bon, un autre avantage aussi de la nouvelle pour un écrivain en ce qui concerne l'édition, c'est tout simplement qu'elle peut être publiée plus facilement en revue, donc dans des revues ou dans des anthologies. C'est plus facile quand même à placer qu'un roman. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant aussi d'avoir d'autres vecteurs, d'autres médias que l'édition d'un classique. Quoi.
Alors moi mes nouvelles, elles ont été publiées toutes séparément avant d'être rassemblées par ActuSF. Et l'avantage de travailler avec un petit éditeur, c'est qu'il travaille sur la durée, c'est-à-dire que contrairement au gros qui essaie de placer l'ouvrage sur un temps très court et qui en fait le suit sur une période courte aussi, et puis au bout de 3 mois on sait si le recueil a marché ou le roman a marché et on peut tirer les bilans. Avec un petit éditeur, la vie d'un recueil s'étale sur une période beaucoup plus longue. Et moi, bon, ça c'était mon premier recueil, Le miroir aux éperluettes. Jérôme doit être pas loin des 1000 exemplaires, ce qui est quand même beaucoup pour un petit éditeur, mais il a fallu 3 ans pour ça, 3 ans et demi. Et il continue encore à se vendre petit à petit. Donc voilà, ça dépend beaucoup de la stratégie de l'éditeur. Mais de toute façon, il ne faut pas espérer faire des chiffres énormes.
Merci. Par contre, il peut y avoir... Il y a une chose quand même par rapport aux nouvelles, c'est beaucoup plus facile de publier une nouvelle à l'étranger. Un roman, bien entendu, puisque la traduction coûte beaucoup moins cher, beaucoup plus facile de la promouvoir d'une certaine façon. C'est aussi beaucoup plus facile de la faire adapter, c'est-à-dire qu'on trouvera assez facilement des gens pour faire un court-métrage à partir d'une nouvelle, voire même un 45 minutes, s'il commence à être un truc diffusable à la télé. Mais au moins vis-à-vis de l'étranger, moi j'ai certaines nouvelles qui ont eu littéralement plus d'un million de lecteurs. Parce que c'est pas qu'elles ont eu d'un seul coup un million de ventes, c'est qu'elles ont eu 30 pays dans lesquels elles ont fait 30 000, quoi. Et ça permet aussi, par exemple, de temps en temps, de passer par la presse. Quand vous avez une nouvelle qui est publiée dans un magazine ou un journal qui tire à 300 000 exemplaires, ben vous avez potentiellement 300 000 exemplaires. Alors, de temps en temps, on a ce phénomène-là qui se produit. Ça a aussi cet avantage-là. Et ça circule bien, les nouvelles, je veux dire. C'est quelque chose qu'on peut assez facilement passer d'un endroit à l'autre. Ça va dans un endroit, puis dans un autre. C'est repris dans un recueil. Ça a plusieurs vies, une nouvelle, à la différence quelquefois d'un roman qui existe pendant une période assez courte et qui après s'en va. Quoi.
Merci.
Si je peux enchaîner. D'ailleurs, plus la nouvelle est courte et plus il est facile de la placer. Enfin, moi, j'ai été contactée plusieurs fois par... des journaux, des revues bulgares, tchèques, enfin des endroits un peu exotiques, tout simplement parce qu'ils cherchaient des nouvelles de moins de 25 000 signes ou de moins de 20 000 signes et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en écrivent finalement.
Oui, c'est vrai. Alors, pour les scolaires, c'est formidable. J'ai une nouvelle dans un recueil qui fait 2 pages. Et alors les profs ont des espoirs de cause, il faut étudier mon recueil et disent choisissez la nouvelle que vous voulez. Et celle-là, vraiment, c'est un best-seller. Et juste, la plupart d'entre eux, honnêtement, ils la lisent jusqu'au bout. On est vachement content, on peut en parler.
La question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'on peut plus facilement faire passer une émotion dans une nouvelle que dans un roman?
Oui, attends, oui, c'est du texte. Pourquoi?
Oui, certainement, parce que l'émotion, bon, elle, dans un roman, peut se dissoudre au fil des pages. Dans un roman, généralement, vous avez une multitude de personnages, une action plus ou moins compliquée, etc. Donc faire passer une émotion, c'est quand même plus difficile. Alors que une nouvelle peut éventuellement être construite justement sur une émotion, bon, incarnée par un ou deux personnages éventuellement. Donc je pense que c'est, pour ce genre de choses, c'est le genre tout à fait adapté.
J'allais dire à peu près la même chose que Raymond. Dans une nouvelle, on dégraisse de tout ce qui n'est pas indispensable, on va directement au cœur du sujet. Si le cœur du sujet, c'est l'émotion, on la traite à fond. Et si on faisait ça sur un roman, moi j'ai essayé d'imaginer, j'ai des nouvelles qui sont bâties sur l'émotion, sur l'instant, La Bulldeuse par exemple, c'est typiquement ça. Si j'avais essayé de faire ça sur un roman, ça aurait été écœurant pour le lecteur, il aurait été hyper saturé. Je crois que l'émotion intense passe très bien sur une durée courte, mais que ce serait épouvantable et fatigant et désagréable si on étalait ça sur 150 pages. Enfin, je ne sais pas si c'est possible.
Un avis là-dessus aussi.
Il y a des romans où il y a des scènes d'une intensité émotionnelle remarquable, et puis il y a des nouvelles qui sont dans l'ensemble d'une intensité émotionnelle remarquable. Je ne vois pas en quoi une scène de roman peut être plus ou moins intense qu'une scène de nouvelle.
Si c'est une scène, oui, on parlait d'un roman entier.
Je veux dire, soyons clairs, si tu écris une nouvelle érotique avec une véritable tension pendant à peu près 10 pages et que tu fais la même chose pendant 450 pages, un, ça va être profondément douloureux, dit le point de vue masculin, et puis deux, ça va être un petit peu frustrant à partir de la page 50. Ou alors pour les gens qui vraiment se retiennent un maximum à partir de la page 70. Donc je suis assez d'accord avec cette vision des choses, mais en même temps, un roman permet, comme un clafoutis aux fruits, ça va varier, d'avoir de temps en temps des goûts de fruits différents. La nouvelle, elle est souvent mono-émotionnelle ou avec juste une émotion qui glisse subtilement d'un endroit à l'autre, alors qu'il y a des romans japonais, je pense à, on parlait des Belles Endormies de Kawabata, ou tu parlais de Murakami, dans lequel il y a une émotion présente, permanente, qui suinte de texte, pourquoi pas. Et même des textes qui sont a priori froids, je veux dire, sont des textes qui de temps en temps peuvent te balancer une émotion dans la gueule, donc tu te dis waouh. Je prends un exemple qui est tout bête. Vous prenez Le Marchand de Venise de Shakespeare, bon, c'est quand même pas un mauvais Shakespeare, autant qu'on puisse en parler. Vous avez cette histoire qui est conne comme un balai, vous avez le méchant, le type qui a pété l'argent, puis vraiment qui a réclamé une ligne de chair, une livre de chair, tout ça. Donc vous avez votre espèce de cliché tout au long de la pièce dans lequel les bons vont trouver un moyen pour que le méchant qui a mis des clauses absolument inconcevables dans le contrat, il se fasse baiser à la fin et que tout le monde dise c'est bien fait, c'est bien fait. Sauf qu'il y a un moment donné où le méchant en question, il vous fait cette tirade en disant mais merde, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que j'en bave depuis le début. C'est que moi aussi, je suis comme vous, mais que vous ne me le reconnaissez pas. Il y a cette tirade extraordinaire. Quand vous me blessez, est-ce que je ne saigne pas? Et là, vous prenez une émotion dans la gueule et vous vous dites « Ah oui, d'accord ». Et ça, je suis désolé. Vous pouvez considérer Shakespeare comme un auteur de nouvelles, si vous voulez, mais il y a besoin de cette construction du drame, il y a besoin d'arriver à ce moment-là où vous allez prendre plein la gueule. Il y a des romans entiers qui sont construits pour qu'en deux pages, vous ayez une émotion qui jaillisse, qui surgisse, parce que l'Edelweiss ne pousse qu'au sommet de la montagne et qu'il a fallu gravir la montagne d'abord. Mais c'est possible, je veux dire, ce n'est pas réservé à la nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas le monopole du cœur, comme disait l'autre imbécile.
Merci. Alors, moi j'aimerais savoir si dans le public il y a des questions à propos de la nouvelle ou des questions à poser aux auteurs qui sont ici présents. On laisse un petit instant pour la parole, oui. Passez le micro.
Pour répondre un peu à la question de tout à l'heure, moi je suis libraire et je sais qu'en tant que libraire c'est dur de vendre de la nouvelle, même pour des auteurs, enfin pour des clients qui aiment un auteur, qui ont aimé les romans, même vendre des nouvelles du même auteur c'est compliqué. Et de fait aussi en tant que mon expérience un peu dans l'édition, je sais que ça se vend moins bien. Et je me demandais, on parle beaucoup en ce moment du livre numérique, et je me demandais est-ce que c'est pas un format aussi qui pourrait aider à vendre de la nouvelle, parce que c'est un format peut-être où on va vouloir consommer des choses plus courtes. Et donc je me demandais les uns les autres, est-ce que vous avez eu des expériences dans ce domaine, des choses intéressantes?
Oui, c'est un peu vrai, ça c'est une idée effectivement intéressante, parce que effectivement, pour vendre de la nouvelle, quand on est éditeur, en général, on la regroupe, on ne vend pas une nouvelle toute seule. On fait soit des recueils autour de l'auteur, soit on fait des recueils thématiques, des anthologies, des choses de ce genre, enfin on en fait une masse. Alors qu'effectivement, la lecture numérique, on l'a vu avec la revue L'Angle Mort, ça permet de faire, je dirais presque, nouvelle à la fois. Et ça nous permet de mettre à disposition effectivement des auteurs avec des prix tout à fait adaptés, un texte ou deux, ou un tout petit recueil de, je sais pas, de 50 ou 80 000 signes, constitué de 2 à 3 nouvelles, pourquoi pas. Donc des objets fragmentés, petits, c'est possible. Ça a un sens parfaitement acceptable en numérique, puisque le prix du numérique n'est pas proportionnel à la taille du fichier.
Donc ça, on peut le faire, oui. Et ça, c'est effectivement, on peut espérer que peut-être on aura des petits objets, on aura des nouvelles pour téléphone portable pour être lu en 4 à 5 écrans. On peut avoir tout un tas de contraintes qui deviendront fertiles et créatives. On peut peut-être avoir des choses qui seront amusantes de ce côté-là. Là, c'est effectivement un endroit intéressant. Peut-être que ça va relancer des envies, que ça va redonner peut-être des goûts de ce genre de choses pour les textes courts qu'on lit entre trois stations de métro, par exemple.
Quel est votre rapport les uns et les autres avec la poésie ?
Fusionnelle.
C'est une forme
courte ? Oui, bon, je vais y répondre. Le rapport avec la poésie, je pense que... Bon, moi, je n'écris pas de poésie. Je pense que c'est un genre qui n'est pas supérieur aux autres. Mais enfin, il faut quand même avoir, quand on écrit de la poésie, une certaine conscience des mots, du poids des mots, etc. Et c'est quelque chose encore de plus condensé qu'un texte court. Mais on peut très bien, surtout dans une nouvelle, encore une fois c'est difficile de le faire dans un roman, mais on peut écrire une nouvelle poétique.
C'est pas ça, je veux dire, c'est que tout à l'heure vous avez dit, dans la nouvelle, chaque mot compte.
Oui.
Dans la poésie aussi. Un mot mal placé.
Ah oui, oui, poésie, oui, bien sûr. Oui. Non, mais je veux dire, c'est presque c'est mécanique aussi. C'est un peu plus le texte est court, effectivement. Plus si vous mettez un mot inapproprié au mauvais endroit, ça fait un flop encore de manière encore plus évidente, hein, bien sûr.
Excusez-moi, vous êtes gentil, mais chaque mot compte dans une étiquette de boîte de petits pois, dans un contrat discographique, dans une notice de machine à laver. Chaque mot compte partout. D'accord. Donc c'est pas parce que c'est la poésie, la nouvelle, tout ça. Les mots comptent à n'importe quel endroit. D'accord. Vous rajoutez un mot supplémentaire sur une étiquette de boîte de petits pois, ça va vous poser des tas de problèmes. Et je ne vous parle même pas d'un mot supplémentaire dans un contrat. Vous voyez ce que je veux dire. Chaque mot compte à tout un tas d'endroits. Ok. Faut arrêter de se la jouer en disant les nouvelles, tout ça, machin. C'est chaque mot compte. Dès qu'on en décide de mettre des mots, chaque mot compte.
C'est que la gestion d'espace et du temps dans la poésie.
Dans la boîte de petits pois, c'est pareil. Il faut qu'on voit la forme du petit pois. Mais non, c'est pareil.
Non, mais faut pas trop l'emmerder quand même aujourd'hui.
Sauf que pour un moment, c'est peut-être moins vrai. C'est vrai pour n'importe quelle forme de courte, et l'étiquette est une forme de boîte de petits pois est une forme courte. Mais est-ce que ça reste vrai pour le roman de Mills dont 100 pages de d'Anne Simons.
Pourquoi lui? Ouais, ça dépend, c'est l'étude d'un roman de Anne Simons traduit par Jean-Daniel Brecht ou...
Moi, je voulais revenir sur la question d'Elisabeth parce que c'est très intéressant. Enfin, moi, j'adore la poésie. Il m'est un peu arrivé d'en écrire, mais bon, c'est pas très significatif. Mais il y a une grosse différence. Même si on aime... Je vais encore énerver Jean-Claude, mais ça tombe bien, il est déjà de mauvaise humeur, donc on risque rien. Mais même si on s'attache beaucoup à la musique des mots, qu'on essaie de les sélectionner avec beaucoup d'attention et de soin, il y a une différence fondamentale, c'est que les nouvelles, ça raconte des histoires. Et la poésie, je ne suis pas sûre que ça raconte des histoires.
La poésie à la française, dit ça à des anglophones, ils vont sauter sur l'onde.
Oui, bien sûr, parce qu'on peut écrire aussi de longs poèmes en alexandrin sur 70 pages.
Non. C'est juste qu'il est possible de gérer l'histoire et le temps dans une nouvelle, comme on le fait dans un texte poétique où il y a une amorce de narration, où il y a mise en place d'un monde. Je sais, ça paraît paradoxal, je prêche un petit peu pour ma paroisse parce que j'écris de la poésie aussi. Mais je connais aussi beaucoup d'écrivains de science-fiction, pour ne citer que celui-là, Le Guay, par exemple, qui écrivent aussi bien de la fantasy, de la poésie que des nouvelles, longues ou courtes. Et donc, je vois, moi, une solution de continuité entre ces formes qui reposent de plus en plus sur la brièveté et sur les effets d'attraction entre les mots, si vous voulez, et qui reposent de moins en moins sur l'intrigue, la complexité d'une intrigue, mais qui vont reposer sur, vous dites les émotions, certes, mais qu'est-ce que sont les mots, sinon des condensés d'émotions, souvenirs, sensations. Et ça fonctionne à plein dans la poésie, et il me semble que ça fonctionne aussi dans certains types de nouvelles, les nouvelles que tu écris, Sylvie, les nouvelles que tu écris, toi, horreur, Jean-Claude, et plus
j'avais bu.
Il ne s'agit pas de style poétique, là. C'est une certaine gestion des mots, encore une fois. Excuse-moi, la boîte de petits pois, ce n'est pas le même type d'aura sémantique, si tu veux, et émotionnelle qu'il peut y avoir que dans un texte de Sylvie.
Ouais, ça dépend, chez Franprix, il y a des
Je vous signale quand même qu'à un moment donné, Fabrice est venu à Toulouse et il a fait une signature chez Igloo parce qu'il avait passé un accord avec les marchands là-bas, chez les trucs de Igloo, ce machin, là, le Frio Center, parce que Captain Igloo avait passé un accord avec lui, mettait son nom sur toutes les boîtes de bâtonnets de poisson. Et donc il faisait des signatures là-bas et c'est vrai, il nous avait fait ça pour une interview et c'était tout à fait fascinant et je ne l'ai jamais oublié. Donc à un moment donné, tu portes le poids de tes péchés, madame Fabrice. Mais donc, quelque part, tu vois, on est pas si loin de la boîte de petits pois.
On est en train de parler poétique de la nouvelle, en somme. Mais on pourrait demander à Fabrice Colin et à Jean-Claude Duniac s'ils ont écrit des poésies, par exemple. Oui, non.
Alors deux fois. Donc, et une fois, c'était pour ma future femme, et elle m'a quand même épousé. mais longtemps après. Et une autre fois, dans un roman graphique en fait, qui s'appelle World Trade Angels, où il y a un personnage qui est censé écrire un poème, donc je suis obligé d'écrire le poème, et mon éditeur m'a dit oh, ouais, c'est vachement bien. Et ça, ça m'a sidéré, parce que j'étais pas. Ben, j'en ai jamais refait depuis, ça m'inquiète toujours beaucoup, parce que je sais pas. Je crois, la poésie, c'est vraiment un truc à part repartir sur la question d'Elisabeth. Pour moi, ça n'a vraiment rien à voir avec la nouvelle. Enfin, les formes peuvent se ressembler après, mais l'état d'esprit, je pense qu'on ne fait pas du tout la même chose. Je ne sais pas du tout comment me dépatouiller de cette question. En
fait. Là, j'ai jamais vu. Là, je te regarde, là, c'est vraiment intéressant, ça fait clôt.
Ouais, c'est un moment de poésie, un peu, là, si on veut. Un peu abstraite, hein. Mais... la nouvelle et le roman, on a quand même beaucoup plus de points communs entre eux, à mon sens, que la poésie et la nouvelle. Ah, est-ce que vous dites ça ?
Jean-Claude.
Pour moi, clairement, j'écris des poèmes depuis très longtemps et j'écris surtout des textes de chansons. Texte de chanson, c'est un objet un petit peu frustrant because on n'est pas tout seul d'abord et on a quelqu'un qui s'appelle un compositeur qui en général adore le texte, sauf que comme le refrain n'a pas, j'ai mis le refrain de la chanson d'à côté, ça allait plutôt mieux. Et donc du coup on obtient un objet qu'on appellera hybride. Et voilà, c'est ça. Donc tu vois, tu comprends d'où vient le succès de Julien Hallyday maintenant. Et c'est vrai que bon, on a ce travail-là, on a un travail dans lequel l'œuvre du texte seul n'est pas accomplie tant que la musique n'est pas là. Mais un bon texte de chanson, c'est un texte qui contient sa propre musique, qui contient, je dirais, presque la façon dont on va le chanter, le marteler, etc. C'est aussi quelque chose en nouvelle qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'une des couches de sens, une des couches génératrices d'impressions, d'émotions, de ressentis, d'informations de toutes sortes dans une nouvelle, c'est la poétique du texte, c'est le fait que, par exemple, on peut travailler sa première phrase, sa dernière phrase pour qu'elle ait un rythme, un martèlement, une certaine façon. Moi, j'ai souvent soit des incipites, des premières phrases ou des dernières phrases qui sont soit des alexandrins, soit des octosyllabes, que j'aime bien. Mais de plus en plus, je travaille sur le vers à sept pieds. Pabada, pada, pada, vous voyez pada, 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 le 3, 5, 7, vous voyez. C'est des choses comme ça qui avancent bien. Bon. Et on peut faire ça, on peut s'amuser à ça, mais encore une fois, ce n'est qu'une des petites couches et qu'une des façons ou des approches de mettre des mots ensemble pour qu'il ait du sens. Et mettre des mots ensemble pour qu'il ait du sens, il y a tellement de façons de le faire que la poésie n'a pas de légitimité particulière. En plus, la poésie, effectivement, lorsqu'elle narre, elle narre d'une façon qui est particulière, qui est propre à sa contrainte poétique, si je puis dire. Et c'est pas quelque chose sur lequel on peut prendre des incises, on peut faire des sauts, on peut faire des raccourcis comme on le fait par exemple dans une nouvelle, et a fortiori comme on le fait dans un roman.
Merci, je vois que l'heure est quasiment terminée. Moi, je dirais, pour conclure cette discussion sur la poésie et la nouvelle, qu'on aurait tous avantage à relire Gaspard de la Nuit d'Aloysius Bertrand, où ce sont des poèmes en prose, et puis on pourra poursuivre la discussion à un autre moment. Moi, je voudrais remercier vous, public, d'avoir assisté à ce débat, et puis tous les auteurs ici présents, Sylvie Lenné, Raymond Lys, Jean-Claude Dugnac et Fabrice Collard, pour leur participation active aussi. Et je vous invite à les retrouver sous la bulle du livre pour une séance de dédicaces. Merci à tous.